Vous êtes sur RTL.
Vienne.
Absolument, toute l'équipe est là. Merci, c'était Guillemette Franquet. Prochaines infos tout à l'heure à midi sur RTL.
11h, 12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL vous régale. Ravi de vous retrouver en cette fin de matinée, en cette fin de semaine. J'ai presque envie de dire en cette fin d'été, parce que c'est vrai.
En cette fin
d'été.
Ah,
qu'est-ce qu'il y a?
Il y a eu l'été.
Oh,
oh non, mais ça va pas.
Mais
non
oui,
plus.
Il a fait beau.
Mais attendez, il a fait beau dans nos cases.
Oui,
et dans nos esprits, Jean-Sébastien.
On a quand même fait,
bien sûr, on a quand même fait le tour de France des plus belles régions. Bon, on rentre à la maison sur le chemin de la régalade aujourd'hui. Je vous avoue qu'on joue à domicile, puisque retour à l'écurie. Nous sommes à Paris.
Oui, c'est la dernière étape de ce voyage de cet été.
Avant de vous retrouver dès le week-end prochain.
Évidemment, évidemment. Paris, l'Île-de-France, on voit bien ce dont il est question. Hein. C'est Paris, capitale omniprésente, omnipotente de notre pays. Pas simple pour le reste de la région Île-de-France hein, d'exister et de se faire une place, que ce soit au niveau économique, patrimonial et touristique. Pourtant, à y regarder de près, l'Île-de-France brille de mille trésors qui en font une destination de choix. Son éclat, il le doit au rayon du roi soleil qui lui a légué le somptueux château de Versailles, au reflet chromé d'une grosse américaine qui s'appelle Disneyland et à des noms prestigieux d'anciennes résidences royales comme Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau. Et puis des touches lumineuses de tableaux qu'on trouve un peu partout. Il en est de même pour les gourmandises et les produits franciliens. Tous les Parisiens sont capables de citer deux ou trois produits typiquement régionaux. S'il faut ajouter le nom du producteur, là, ça devient carrément mission compliquée, voire impossible. Et pourtant, près de 75% de la surface francilienne est occupée par des terres cultivées. Et cela ne prend pas en compte les surfaces dans Paris intramuros, puisqu'il y en a de plus en plus qui sont dévolues à l'agriculture urbaine. En attendant, Paris et l'Île-de-France sont des terres agricoles. Et nous allons vous le démontrer aujourd'hui.
Alors, l'Île-de-France, terre agricole, explication dans cette émission. Et puisque nous sommes à Paris, Louise est venue avec sa boîte à punaise.
Bah oui, j'ai garé ma deux chevaux devant la porte, j'ai mis mon béret et j'ai la fameuse baguette sous le bras.
Radio Cliché, bonjour.
Bah non, pas du tout, moi j'adore les clichés, arrêtez un peu. Donc on va parler forcément baguette de pain pour commencer, c'est évident. Paris, dans le monde, c'est l'un des symboles typiques de la France et plus particulièrement de Paris. Alors j'ai des chiffres qui sont assez étonnants.
Ils sont hallucinants ces chiffres.
Près de 6 milliards de baguettes sont produites chaque année en France, ce qui équivaut à 320 baguettes par seconde.
Imaginez.
On est quand même les champions du monde. Alors c'est moins qu'au début du 20e siècle où on consommait jusqu'à 3 baguettes par personne et par jour, alors qu'aujourd'hui on en consomme apparemment une moitié de baguettes par jour. Mais c'est vraiment, voilà, c'est le symbole de Paris. Rien que d'en parler, j'ai envie de manger une baguette de pain.
Alors on en parlera tout à l'heure, mais une baguette française,
mais oui,
qui est en passe de devenir patrimoine mondial.
Il y a eu l'art du pizzaiolo napolitain. C'est peut-être autour de la baguette française de recevoir bientôt les honneurs de l'UNESCO, parce que notre cher président Emmanuel Macron souhaite en effet que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture inscrive notre bonne vieille baguette au patrimoine mondial de l'humanité. Alors on croise les doigts, affaire à suivre.
Oui, on en parlera tout à l'heure avec le président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française qui s'appelle Dominique Henrac. Et dans la playlist d'RTL vous régale pour cette dernière, Louane. Mais aussi l'immense succès de Suzanne Vega en 1987. Au programme d'RTL vous régale également ce matin, Lazara. Tu t'en iras. Cette émission, depuis le début de cet été, c'est vrai, si vous aimez la régalade, c'était forcément la bonne idée. Jean-Jacques Goldman au menu.
Bonne idée.
Je sais. Et puis Stevie Wonder aussi. You are the sunshine of my life. Et parlons de soleil. Il y a du soleil qui brille en toi. Voilà pour la playlist qui vous attend jusqu'à 12h30. Merci de passer cette fin de semaine avec nous. C'est RTL vous régale, nous sommes à Paris.
RTL vous régale.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
RTL vous régale jusqu'à midi et demi. Paris, c'est l'Île-de-France qui est à l'honneur aujourd'hui, au-delà de Paris même. L'occasion de se souvenir que tout ce qui brille n'est pas or, même si on va parler de fromage.
Bah oui, un petit dernier pour la route, non?
Tiens, ouais. Il nous manquait ça sur le plateau. Tiens.
Bah, évidemment. Et je vais vous parler du Brie de Meaux. C'est vraiment une figure incontournable des plateaux de fromage. Le Brie de Meaux était couronné roi des fromages. Hein, je finis en beauté, vous avez vu. Il a été couronné donc roi des fromages au congrès de Vienne en 1815 au cours d'un dîner organisé par Talleyrand. Alors c'est un fromage à base de lait de vache, de la famille des pâtes molles à croûte fleurie. Moi j'aimais bien toujours les mettre dans les bonnes familles, c'est un peu le jeu des sept familles, des sept fromages. Et alors, il est fabriqué pendant un mois à l'aide de 25 litres de lait, donc de vache. L'affinage s'effectue à sec, un mois dans une cave humide, au cours duquel le fromage est retourné plusieurs fois à la main. C'est un fromage d'un diamètre et d'un poids imposant. Il est rarement présenté entier, sauf chez les fromagers, qui le conservent posé sur un petit paillon. Je sais pas, ça m'émoustille.
Là, je me sens ému.
Oui, j'adore ça, le Brie de Meaux.
Le paillon.
Et c'est une pâte qui est souple, généreuse, de couleur crème en bouche. Ça a des arômes un peu de lait chaud, une petite touche de noisette. Alors aujourd'hui, à Meaux, on compte 7 fabricants et 3 affineurs.
Il y a la ferme des 30 arpents, qui est, je pense, l'alpha et l'oméga de ce qu'on peut faire en Brie de Meaux. C'est une recette fermière. Les troupeaux sont alimentés avec uniquement des produits sélectionnés. Il faut savoir que c'est la dernière production de Brie de Meaux où ils produisent leur propre lait. Ils fonctionnent en vase clos, en autonomie totale. C'est la dernière production à faire ça. Et c'est vrai que le Brie de Meaux de la ferme des 30 arpents, c'est un truc, mais...
L'hiver, ils font un brie à la truffe.
Oui.
Je vous raconte pas l'histoire.
Ça tombe bien que vous parliez de champignons, parce que quand on parle de champignons,
bah, à votre avis,
forcément, champignons de...
Paris.
Et évidemment.
Alors, le champignon de Paris, c'est une espèce. Il existe très rarement à l'état sauvage. Il est cultivé sous le nom de champignon de Paris ou champignon de couche. C'est le champignon qui est le plus cultivé en champignonnière, car il est simple et rapide à cultiver. Alors si on revient un peu en arrière, les origines du champignon de Paris remontent à l'époque de Louis XIV. Il aurait été vu pour la première fois à Versailles, ce champignon.
Vous savez qui l'a fait à Versailles?
C'est
La Quintini.
Notre ami.
Mon ami La Quintini.
On en a peu parlé cet été, je trouve.
Peu, mais ouais. Quand même dans la dernière, il faut.
Faut lui rendre hommage.
Ah, absolument.
Sacré La Quintini.
Et ensuite, ils se sont développés dans les catacombes de Paris sous Napoléon Ier. Ces premières champignonnières souterraines s'installent d'abord dans les quartiers sud de Paris, puis s'étendent rapidement jusqu'à Montrouge, Bagneux, Meudon, donc la banlieue proche. C'était vraiment une vraie culture à l'époque.
Il y a une raison très précise pour laquelle on ne cultive plus de champignons à Paris.
Bah alors, ça s'est un peu arrêté parce qu'il y a eu la construction du métro au cours du XXe siècle qui a signé l'arrêt de la culture des champignons dans les sous-sols parisiens. Et donc, ça a été à ce moment-là délocalisé aux alentours de Saumur et à l'étranger. Donc justement, la grande question de ce matin, c'est le champignon de Paris est-il vraiment de Paris, voire même est-ce qu'il est encore français?
À l'origine, oui. Aujourd'hui, il est plutôt cultivé sur les bords de Loire.
Alors, il y a 85% de la production de champignons de Paris français qui sont faits du côté de la Loire. Il y en a également beaucoup en Picardie, mais il faut faire très attention quand vous achetez ces champignons sur les marchés.
Ils viennent pas que de France,
dans les supermarchés surtout, parce qu'ils viennent beaucoup des pays de l'Est,
et de la Chine,
voire de Chine.
Ouais.
Voire de Chine.
Alors ça, c'est essentiellement pour ce qui est de champignons en boîte. C'est pas les champignons de Paris frais, mais pour tout ce qui est en boîte, il faut faire très attention parce que en fait, c'est mine de rien, le champignon de Paris, ça paraît banal comme ça. C'est une culture qui est extrêmement pointue. Le champignon est ni plus ni moins que créé en laboratoire, en fait, dans les carrières où ils sont faits ou dans les tuffeaux quand on est près de la Loire. Le mycélium est produit à partir de spores, de spécimens de champignons qui sont très particuliers.
C'est la première fois que je vous entends parler de spores dans cette émission. C'est unique.
Rassurez-vous, ce sera la seule. C'est un mélange de fumier de cheval, de paille, de compost qui est ensemencé avec ce mycélium. Deux semaines après, le compost est recouvert d'un mélange de pierre de tuffeau broyée et de tourbe qui permet de fructifier ce mycélium. À partir de là, des conditions de température et d'humidité qui doivent être constantes permettent le développement du champignon. 5 semaines après l'ensemencement, on a les champignons qui sortent et on a grosso modo 5 récoltes pendant 2 mois. Une fois que c'est terminé, on jette le compost, on jette le substrat sur lequel a poussé ces champignons et on doit recommencer. C'est très technique, des conditions de travail qui sont pas simples. Il faut faire très attention justement avec les champignons qui viennent de Chine. Parce que c'est pas... Parce qu'ils viennent de Chine.
Il y a quand même 10 millions d'éleveurs en Chine de champignons de Paris. C'est assez hallucinant. Donc surtout, regardez bien l'origine de vos champignons.
Ça doit être indiqué, hein, c'est origine France et rien d'autre.
Voilà.
On est d'accord.
Acheter les frais comme ça.
Mais oui, et puis surtout, il reste des producteurs français. Donc
c'est intéressant ce que vous dites, Jean-Seb, parce que vous parlez de champignons frais et vous dites acheter les frais. Je partage votre avis. Parce que Louise évoquait les champignons en boîte il y a quelques instants.
Non, c'est moi.
C'est vous ? Ah, d'accord. Oui. Non, parce que j'ai l'impression qu'elle aime les champignons en boîte. C'est pour ça que je le dis.
Non, mais c'est celle qui m'en faisait. De temps en temps.
Voilà. Bah ouais, on n'en fait plus.
Ah, j'ai vraiment du mal avec le champignon en boîte. Bon, Paris-Île-de-France, ça veut dire que c'est une ville, que c'est une forêt, que c'est un château. On prend la direction de Fontainebleau dans un instant avec Jean-Seb.
Voilà.
C'est la dernière d'RTL vous régale. Aimer à mort, c'est le nouvel extrait de Joie de vivre. Voici Loane.
Avancer droit, perdre son temps, avoir peur de soi ou peur des gens. C'est si facile. Quand on s'endort, perdre le fil sans les accords. Aimer à mort, sans respirer. Même quand j'ai tort, je suis là, j'arrête pas. Aimer à mort, sans se toucher. Même si j'ai peur, je suis là, je crois en toi et moi. Arrêtez les cœurs.
C'était Loane sur RTL. Et dans un instant, le petit tour de Jean-Sébastien dans RTL vous régale qui vous emmène à Fontainebleau.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
11h, 12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Pour la dernière d'RTL vous régale en cette fin de semaine, un petit tour à Fontainebleau puisque nous sommes à Paris, dans l'Île-de-France. Je le disais, c'est un château, c'est une ville, c'est une forêt. Fontainebleau, c'est 20 000 hectares.
C'est un endroit, moi, que j'aime beaucoup, ces 20 000 hectares, effectivement, qui, depuis 1998, ont été classés réserve mondiale de la biosphère. Ça reste une source inépuisable de balades, de randonnées pour les 10 millions de personnes, habituellement, qui fréquentent chaque année la forêt de Fontainebleau. C'est peut-être une des balades nature les plus proches et les plus dépaysantes de Paris. Et puis, il y a évidemment cette ville de Fontainebleau, la vraie demeure des rois et la maison des siècles, comme disait Napoléon. Au départ, c'est un tout petit château fort qui servait pour des parties de chasse. François Ier revient ici en 1527. Il décide de faire des travaux pour avoir de l'argent. Il importa d'Italie un jeu, le loto. Hein, ça vous rappelle un truc. En 1539, il invente du coup la première loterie française qui permet par conséquent de lever une manne extraordinaire versée volontairement par le peuple. Ça évite de créer des impôts. Se sont succédés à Fontainebleau Henri IV, à qui on doit l'escalier en fer à cheval. Louis XIII, Napoléon découvre le château, il s'y installera en faisant aménager une salle du trône. Se sont succédés pendant 7 siècles, 34 souverains, et Fontainebleau est aujourd'hui un musée, n'a plus aucune autre fonction. les 1530 pièces qui sont un des sites majeurs de notre histoire, eh ben, on découvre à la fois l'invraisemblable lit à baldaquin de Marie-Antoinette et la galerie de Diane, 80 mètres de long, 16 000 ouvrages. Et puis, bien sûr, il y a la cour des adieux où le 20 avril 1814, l'empereur, ayant abdiqué, partait pour l'île d'Elbe après avoir dit « Soldats de mes vieilles gardes, je vous fais mes adieux ». Si on se balade dans les environs, vous avez Barbizon, célèbre pour son école de peinture et paysagiste, avec Jean-François Millet en tête de file. Les peintres du Deuxième Empire ont adoré Barbizon parce que c'est beau. La possibilité de commande impériale, en plus, était plutôt facile parce qu'il n'est d'art à cette époque que de commande. Ça a toujours été comme ça. Qu'à partir des impressionnistes, où les peintres se libèrent des commandes officielles. Le musée de Barbizon, installé dans l'auberge Egan, présente le cadre de vie des peintres. On visite l'atelier de Jean-François Millet. C'est véritablement un bonheur total à aller découvrir là-bas.
Alors, évidemment, on s'est posé la question de savoir, en consacrant cette dernière émission à Paris, à l'Île-de-France, à qui on allait s'adresser pour incarner la cuisine parisienne.
Il y avait le choix.
Il y avait beaucoup de choix, il y avait pas mal de possibilités, mais on s'est arrêté sur quelqu'un qui nous semble être une bonne illustration de ce qu'est la cuisine parisienne. Bonjour David Radjeber.
Bonjour, comment allez-vous?
Mais très très bien, on est ravis de vous avoir avec nous.
Bonjour David.
Bienvenue dans RTL, vous régale. David Radjeber, vous êtes le chef de l'Assiette, c'est le nom du restaurant dans le 14e arrondissement de Paris. Je traduis vos propos, vous vous dites aubergiste, amoureux de la cuisine française. Moi, je suis allé jeter un petit coup d'œil. Je vais être transparent, hein. Je ne suis pas venu dîner chez vous encore, mais ça va pas tarder. J'ai jeté un petit coup d'œil sur votre site et il y a un truc qui a déclenché en moi une envie irrésistible de venir vous voir rapidement. C'est cette phrase: ici, on ne suce pas de feuilles.
Ah bah oui.
Je voulais vous en parler. Ici, pas de feuilles d'épinards, de pousses de soja, ni
de
quoi
fleurs.
Que ce soit, et pas de fleurs.
Ne le lancez pas sur le sujet.
Non, on est d'accord.
On n'est pas des jardiniers, on n'est pas des fleuristes. Nous sommes des cuisiniers, on travaille que des bouillons, que des jus. Voilà. On fait une belle cuisine équilibrée avec du beurre, de l'huile d'olive, de la fleur de sel, du poivre. Voilà. Il n'y a pas de fleuriste.
David, c'est ce qu'on appelle une cuisine canaille.
Une cuisine canaille chic et champêtre.
Joli, joli. Alors, on va être tout à fait transparent. Le restaurant est fermé aujourd'hui en ce 20 août. Mais la carte de rentrée de l'assiette est déjà prête.
Elle est prête, bien sûr.
Allez, faites-nous rêver.
Alors écoutez, comme d'habitude, on a toujours notre petite rillette de jarret de cochon confite au foie gras qui est vraiment l'entrée signature du restaurant l'assiette. Mmh. Après, on ira sur un petit velouté de crécy, sorbet à la coriandre avec un crouton doré. Mmh. On va remettre une cuisse de grenouille.
Ah, ça, c'est bien. Ah, c'est bien.
Persillée, pomme parisienne avec un bon jus de rôti un peu grassouillé, comme ça. Mmh. Œuf brouillé au girolle. L'incontournable, inamovible, le cassoulet.
Ah oui.
C'est une des signatures.
Hein. Ah oui, Louise, je connais bien. Elle adore le cassoulet.
J'adore ça.
C'est pas le truc le plus parisien qui soit, mais c'est très, très bon.
Ah oh, oui, mais bon.
Oui, mais c'est devenu... il a été réinterprété de façon un petit peu plus ludique, avec moins de gras, avec une belle justesse de cuisson. Il faut venir goûter. Joues de bœuf braisé en cocotte, carottes fondantes.
Ça, c'est fabuleux, ça. Pouf.
Cuit pendant 8 heures, vraiment au bouillon, dans le jus.
Limite, ça se mange à la cuillère.
Ça se mange à la cuillère, oui, Jean-Sébastien, absolument.
Vous voyez, quand vous posez le couteau sur la joue de bœuf, normalement, elle tombe toute seule. Voilà, elle s'ouvre comme ça, joliment.
C'est ça. Vous ouvrez le couvercle de la cocotte, vous sentez toutes les senteurs là, de ce petit braisage, c'est fabuleux.
J'imagine tellement.
On fait une fricassée de pintade à la forestière.
Ah, avec des petits champignons.
Avec des petits champignons, absolument.
Et alors,
filet de merlan poêlé avec une sauce marinière.
Le filet de merlan poêlé. C'est une tuerie, ça. C'est fabuleux, ça, comme plat.
David Radjeber, c'est pas compliqué. L'assiette, c'est en règle générale, c'est trois entrées, trois plats.
En général, on fait quatre entrées, quatre plats, quatre desserts. Et on a toujours une ou deux suggestions aussi. Mmh. Avec un menu déjeuner à 23 € entrée plat ou plat dessert.
On disait tout à l'heure, vous faites du cassoulet. C'est vrai que c'est pas le truc le plus parisien, non, même si c'est une réinterprétation. Je pose la question parce que, justement, quelle serait votre définition à vous, David, de la cuisine parisienne? C'est difficile, hein?
La cuisine parisienne, le plat par excellence pour moi de l'Île-de-France, c'est la tête de veau.
Voilà.
Ouais, pas faux.
La tête de veau, mais je préfère une sauce ravigote qu'une sauce gribiche. Parce que je trouve que la sauce ravigote, ça enrobe beaucoup plus tous les éléments un petit peu de l'assiette, que la gribiche, c'est un peu plus gras. Mais moi, je trouve que on dit Parigot tête de veau. Et ben moi, je suis fier d'être parisien. Je suis un bougnat de Paris. Donc, ouais. Vive l'Auvergne, vive Paris. Donc, je dis que la tête de veau, c'est l'emblème, c'est le plat par excellence de l'Île-de-France.
David, rien qu'à voir. Moi, il y a deux desserts. Pour moi, c'est Paris. C'est la crème caramel. Ouais. C'est un truc, mais je pourrais...
Et ben, je mets en dessert.
Mais oui, ça. Je sais, mais c'est pour ça que je le... Et le baba au rhum. C'est les deux trucs pour moi, ça c'est...
Ou le millefeuille, quand même aussi.
L'opéra.
Le baba au rhum, c'est l'opéra. Un petit clin d'œil à mon ancien... J'ai travaillé 15 ans pour Alain Ducasse, et c'est la recette du Louis XV à Monaco. Et ça, c'est un petit clin d'œil de Monaco. Et j'ai repris exactement la même recette de Frédéric Robert à l'époque, et c'est vraiment... Et on met la bouteille de rhum sur la table, tu sais. Voilà.
Voilà, vous avez compris l'ambiance.
Arrose le baba, voilà. Ouais. C'est la fête.
David, vous êtes toujours ouvert le dimanche soir ?
Absolument, mercredi au dimanche.
Ça, c'est une super table du dimanche soir quand on a un petit peu le blues.
Ça, c'est super.
Vous allez à l'assiette chez David, manger un bon cassoulet. Vous allez voir que vous êtes reparti pour une bonne semaine.
Et vous savez quoi, David, on a un dernier truc, c'est un point commun, c'est que j'ai une passion, mais infinie, pour la coquillette, truffe et comté. Je peux venir à pied, hein, franchement, de très très loin.
Elle va revenir, on fait le croque-monsieur, on fait les gnocchis. Et si je peux rajouter quelque chose,
vous êtes chez vous.
Pendant le confinement, j'ai ouvert une petite arrière-cuisine qui est juste à côté de l'assiette. Là, on fait une cuisine de rue, une épicerie fine, où on mange du matin au soir. C'est l'arrière-cuisine, c'est juste à côté de l'assiette.
Il s'appelle David Radjeber, c'est le chef de l'assiette. C'est dans le 14e arrondissement de Paris. Vous rouvrez quand, du coup, la date ?
On rouvre le 1er septembre.
D'accord, ben c'est noté.
On sera là.
Je sais qu'on va y venir un dimanche soir, à mon avis. On vous embrasse, David. Belle fin d'été à vous. À bientôt.
Merci. Bonne vacances. J'étais ravi d'être avec vous. À bientôt.
Plaisir partagé. Merci beaucoup. Dans un instant, Louise, vous êtes prête pour les petits challenges ?
Toujours.
Les trois derniers petits challenges de l'été. Soyez là. À tout de suite sur RTL.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Louise, petit Renaud, je vais vous dire un truc, ça va me manquer les petits challenges.
C'est vrai ?
Oui, je vous assure, parce que c'est une séquence d'été, voilà, on l'avait conçue comme ça. Elle ne sera pas dans l'émission de la rentrée la semaine prochaine. Qu'à cela ne tienne, trois derniers challenges. Lorraine est à Lorient et vous demande comment garder une jolie forme pour ses meringues.
Oui, c'est vrai que c'est tellement facile à faire. Surtout, hein, si vous faites une mayonnaise et que vous prenez que les jaunes d'œufs, vous gardez bien les blancs pour faire les meringues. Donc, c'est très bien, Lorraine, de faire des meringues. Alors, pour conserver une jolie forme, il suffit simplement juste avant de les cuire, de saupoudrer vos meringues de sucre glace. Et après, vous les mettez en cuisson et vous allez voir, ça garde cette petite forme en goutte d'eau.
Laurence est en Bretagne. Elle demande si vous avez une astuce pour avoir des crêpes plus savoureuses.
Alors, j'ai une astuce, c'est au choix. Vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de bière blonde dans votre pâte, mais ça peut apporter un petit peu d'amertume, donc il faut aimer, ou sinon un demi-verre d'eau gazeuse, et vous allez voir, ce sera beaucoup plus onctueux.
Sinon, vous allez sur Internet et vous allez voir cette extraordinaire recette de
Raymond Oliver.
De Raymond Oliver avec Catherine Langer.
Fantastique.
Qui est un truc d'anthologie.
Mais c'est-à-dire qu'il met la moitié du bar dans la pâte à crêpes, il met du rhum, il met de la bière, il met du vin.
Un demi-litre de pastis. Oui. Même au départ.
Pour faire ce qu'il appelle une portion personne d'une trentaine de crêpes.
Voilà. Et surtout une petite crêpe très fine, très goûteuse.
Ça, tu m'étonnes. Bastien dans les Landes se demande comment éviter que ces artichauts noircissent. Ça, c'est un grand classique.
Oui, alors, il faut, pendant la cuisson, vous ajouter une cuillère à soupe de sucre en poudre et une cuillère à soupe de vinaigre dans votre eau de cuisson. Vous allez voir, vos artichauts vont rester intacts.
Elle vous aura trouvé des solutions depuis le début de cet été. Merci à elle. Merci Louise. C'était un plaisir de vous avoir dans RTL vous régale. L'ambassadeur du jour, les amis, s'appelle Dominique Enracte. Il est le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. C'est un infatigable défenseur de ce qu'on appelle le pain français. Oui. On en parle avec lui dans un instant sur RTL. Juste après Suzanne Vega, on est en 1987. La chanson s'appelle Luca. Bonne fin de matinée. Et se termine tranquillement sur RTL.
My name. I live on the second floor. I live upstairs from you. Guess I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was.
C'est le standard de Suzanne Vega, c'était Lucas sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Voici l'ambassadeur de ce vendredi dans RTL vous régale. Bonjour Dominique Enracte.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Défenseur du pain français, on en parlait avec Louise et Jean-Sébastien en début d'émission aujourd'hui. C'est vrai que cette baguette, elle est candidate pour devenir patrimoine mondial de l'UNESCO. La réponse tombera cet automne. J'imagine que vous nourrissez les espoirs les plus soutenus et les plus fous.
Bonjour à tous. Alors, c'est ce projet de baguette donc, qui est sur lequel on travaille déjà depuis 4 ans. Et on aura la réponse en fait en octobre 2022. Puisque là, ce dossier donc, a été choisi par la France et c'est un dossier tous les 2 ans. Donc là, on est parti pour l'international. Donc il y aura un certain nombre de pays qui se prononcera pour voter pour cette baguette à l'UNESCO.
Voilà, vous parlez de dossier. Donc c'est quelque chose d'extrêmement construit, d'extrêmement précis. Il y a un cahier des charges. Il y a surtout, pour faire simple, 3 grands critères.
Oui, c'est en fait surtout 2 gros critères. Là, ce sont les savoir-faire artisanaux. Donc, on parle bien d'une baguette faite artisanale, donc à base de farine, d'eau, de sel, de levure, et quelque chose de cette fabrication à la main. Et aussi, la culture de la baguette de pain. Donc, c'est ça, les savoir-faire et la culture de la baguette. C'est-à-dire tout ce qui tourne autour de cette baguette. En fait, la première course qu'on donne à un enfant, le quignon de pain qui vient, toutes ces boulangeries qui sont dans les petits villages avec les livraisons, etc. C'est toute cette culture de pain qui est faite.
Il y a un critère qui est important à mes yeux, hein, c'est qu'il doit être fait évidemment dans son pays d'origine, il doit trouver ses racines dans son pays d'origine, et il doit surtout être représentatif des habitudes et des coutumes de ses habitants. C'est vrai que si on parle de coutumes boulangères, s'il y a un truc qui est dans l'ADN de ce pays, c'est la baguette.
Tout à fait. La baguette, c'est vraiment quelque chose de très particulier en France. Où on la voit, on la trouve par exemple au petit déjeuner, on la trouve le midi à table, au dîner, mais aussi dans le sandwich. Vous savez qu'il y a un indice du jambon beurre, par exemple, hein, comme l'indice Nikkei. Il y a l'indice du jambon beurre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très réparti, mais aussi dans les habitudes des Français d'aller chercher le pain, etc. Même quand on vend un appartement, le fait d'être à côté d'une boulangerie est un argument de vente.
Et c'est un lieu de vie, surtout, les boulangeries.
Alors, tout à fait, c'est un lieu de vie avec lequel on y va quand même tous les jours. Les gens, on les voit, les clients, on les voit tous les jours. 95% des gens disent aller chez le boulanger. Ça reste aussi aujourd'hui encore le commerce préféré des Français. Donc, c'est, vous voyez, par exemple, Eric Emmanuel Schmitt me disait, c'est vrai qu'une ville, un village sans boulangerie, c'est un village moribond. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a une vie dans un village quand il y a la boulangerie tous les jours et aussi les gens qui s'affairent la nuit.
C'est effectivement le dernier commerce, généralement, qui reste dans un village. Au-delà de cette baguette qui est effectivement le symbole de la France à l'étranger et en France, moi je voudrais saluer une initiative que vous avez eue et qui dont on parle depuis le début de l'été, dont je parle depuis quelques mois maintenant dans cette émission où on défend le bien vivre et le bien manger. C'est vous qui avez créé cette marque qui s'appelle Boulanger de France, qui je trouve est une chose absolument magique parce que vous vous êtes rendu compte que la simple dénomination d'artisan boulanger ne suffisait plus pour défendre le pain français. Et là, vous avez créé ce label, cette marque, qui fait que tout chez les boulangers de France doit être frais et fait du matin?
Alors tout à fait, c'est, vous savez, les époques évoluent. Ce qu'on avait fait déjà, ce que nos pères ont fait, cette loi de 93 pour la baguette de tradition, et aussi le fait que d'être boulanger, c'est un métier qui a été fait en 98. Vous savez que l'appellation aujourd'hui boulanger ou boulangerie, comme vous regardez sur si c'est mis sur une boulangerie, ça veut dire que les gens fabriquent leur pain sur place. C'est quand même extrêmement important, ouais. C'est une loi qu'ils ont pu mettre en place. Donc là aujourd'hui, c'est vrai que ça suffit plus. Il y a la pâtisserie, la viennoiserie, et donc on a voulu mettre une belle marque avec lesquelles. Donc, il y a la fabrication du pain, de la pâtisserie, du snacking également, mais aussi tout un côté vertueux, c'est-à-dire qu'il faut avoir des apprentis, puisque effectivement, voilà. Si on veut avoir des gens qui fabriquent, eh ben, il faut former les apprentissages, il faut respecter les 18 grammes de sel ou de farine, il faut avoir des circuits courts, et en plus, ce côté qui est très intéressant, c'est que c'est vérifié par un bureau, le Veritas notamment, qui vient vérifier la véracité de ce que la démarche a pris du boulanger.
Bon, Dominique, comme c'est notre dernière émission de l'été, et qu'on adore les secrets, c'est quoi le secret pour faire une vraie bonne baguette?
Vous savez que le secret pour faire une bonne baguette, c'est déjà une bonne farine, donc un bon blé, parce que c'est toute une filière, hein, blé, farine, pain. Et il faut déjà de la bonne farine. Ensuite, il faut évidemment de la levure, de l'eau, du temps, et beaucoup de temps et de savoir-faire. Parce qu'en fait, avec tous ces quatre ingrédients, vous avez 33 000 baguettes différentes. Et effectivement, une baguette de tradition, même si on a les bons ingrédients, elle ne sera pas forcément bonne. Donc, il faut vraiment du temps, des températures à respecter.
C'est qu'elle se repose.
Je vous dis beaucoup d'amour.
Dominique, c'est ma dernière question, et c'est une question, je pense, que tout le monde est en droit de se poser. Ça changerait quoi pour la baguette française d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO?
Je pense que cette inscription va dire à tous et à toutes que c'est vraiment un savoir-faire, ce artisanal, et que toute cette filière, il faut la conserver. Ça va aussi donner au niveau de l'étranger, du monde entier, qu'on a vraiment quelque chose en France qui est typique et qu'il faut peut-être venir voir, visiter, comme on fait la route des vins, on fera peut-être la route des pains. Et puis aussi, donner envie aux jeunes de faire un produit merveilleux, c'est-à-dire de dire, effectivement, ce boulanger, parce qu'il y a toute une histoire dans ce dossier. Hein. Donc ça va donner envie aux jeunes de faire et de perdurer dans toutes les générations à venir.
Et ça placerait surtout la baguette française au même niveau que la pizza napolitaine, que la bière belge,
oui, que
le dolma, le kimchi et beaucoup d'autres choses dans le monde.
Vous qui êtes belge, Jean-Michel, je suis désolé, vous êtes bien au courant que ça a changé quelque chose pour la bière belge d'être inscrite.
Oui, c'est important.
On la voit plus facilement.
Mais c'est important pour les produits de bouche, comme c'est important pour les événements folkloriques, etc. Ce sont des choses qui font partie du patrimoine.
Vous savez, il y a quelque chose qui est très très important aussi, c'est les échanges culturels, c'est-à-dire qu'on va se hisser au niveau de l'international pour après aussi parler avec le pain turc qui a été déposé, d'autres produits au niveau de la gastronomie, de l'alimentation, qui font que c'est des échanges internationaux et pour aussi des jeunes qui puissent se promener avec ce savoir-faire.
Merci pour toutes ces explications, Dominique Enracte. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. On se permettra de vous repasser un petit coup de fil aux alentours de l'automne, octobre-novembre, d'accord?
Tout à fait. On a beaucoup de choses à faire avec les
On prendra des nouvelles de vous. Merci et bonne fin d'été à vous. À bientôt. Dans la suite d'RTL, vous régale, Paris et l'Île-de-France. On trouve à Paris 10 marchés couverts et on va vous en parler avec Jean-Sébastien. C'est la dernière fois qu'on vous emmène au marché. You came to my rescue. You are the sunshine of my life. Stevie Wonder sur RTL.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Comment est votre blanquette ?
La blanquette est bonne.
Qu'est-ce qu'on aura adoré se balader sur les marchés de France dans RTL Royal depuis le début de cet été. Paris ne va pas faire exception à la règle. Je disais, il y a 10 marchés couverts à Paris.
Certainement pas. Vous avez Passy, les Batignolles, Saint-Quentin, La Chapelle. Alors bien sûr, quand on pense marché couvert,
bah, il y a
tout de suite les images des halles de Paris qui reviennent en mémoire. Ces halles centrales qui ont une longue histoire, qui débuta au XIIe siècle avec la création d'un marché de plein air au lieu dit des Champeaux. Sur d'anciens marécages situés hors les murs. À l'époque, on n'était pas dans le centre de Paris comme on l'est aujourd'hui, on était en dehors de Paris. Au fil des siècles, ces halles furent maintes fois réaménagées, agrandies afin de résoudre les problèmes d'engorgement et d'hygiène. On a rendu le lieu salubre, ça s'est passé sous Napoléon III avec le fameux préfet Haussmann. Baltard a été contacté pour concevoir un projet qui prévoyait la construction de 12 pavillons de fer en forme de parapluie supportant de larges verrières. Les Halles Baltard, c'est ça. Les travaux ont démarré en 1854. 15 ans plus tard, il y avait 10 pavillons qui étaient sortis de terre et ça a duré pendant un bon siècle. C'était devenu encore un problème d'engorgement et il était impossible de continuer au vu de l'agrandissement et de l'afflux de population à Paris dans les années 50, 60, 70, d'avoir ces halles parisiennes au centre de la ville. Donc ça a déménagé à Rungis. Mais en attendant, quand on est à Paris, Dieu merci, il reste des marchés, je vous disais, deux halles dans les quartiers, mais il y a aussi des marchés de plein vent. Vous avez par exemple le marché d'Aligre, qui est un des plus denses, un des plus vivants. C'est aussi l'un des moins chers de la capitale, qui se situe autour d'une petite halle Beauvau dans le 12e arrondissement. Marché alimentaire, brocante, friperie. Vous avez aussi le marché Raspail, qui a été créé en 1920, qui est un des marchés les plus courus de la capitale, qui est plus cher que le marché d'Aligre. C'est surtout un marché bio tous les dimanches, où vous avez des maraîchers qui viennent directement de leur ferme, qui viennent vendre leur production. Le marché bio du dimanche, c'est une quarantaine de commerçants qui proposent des produits uniquement issus de l'agriculture biologique qui s'installent dans l'allée centrale du boulevard Raspail. Et puis comme ça, vous en avez un peu partout dans Paris, au gré des semaines, au gré des jours de la semaine, que ce soit le matin ou que ce soit le soir, parce qu'il y en a aussi qui se passent le soir, je pense au marché qui est juste devant le palais Brongniart, deux fois par semaine, qui se déroule de 17h à 21h, voire plus l'été. C'est très agréable de se balader sur les marchés de plein vent quand on est à Paris.
Et moi, il y en a un que j'adore particulièrement, c'est le marché des Enfants Rouges, ce petit marché vers la rue de Bretagne.
Alors, qui est de moins en moins marché.
Qui est de moins en moins marché, mais qui est de plus en plus restauration. Absolument. Finalement, vous pouvez vous installer à des échoppes, c'est d'un exotique, mais sans nom. Vous pouvez manger du couscous, vous pouvez manger des paella, vous pouvez faire le tour du monde au marché des Enfants Rouges. Faut y aller, c'est vraiment une...
Très très bon couscous, c'est vrai.
Ouais, je confirme, hein, ça. C'est une bonne idée. Allez, Lazara, tu t'en iras, c'est dans RTL, vous régale, avant le défi frigo et la révélation ce matin de l'ingrédient du jour. On accueillera Françoise, elle est à Reims, elle attend son tour, elle est dans la coulisse.
Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans goûter, même sans douter, je dirai que tu m'aimes pas, et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois? Que jamais être contre toi. Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais, moi je m'en doutais. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras. Tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. J'ai plus la force de devoir dire au revoir. Tout ça pour toi, tout ça pour quoi? Pour me mettre dans tous mes états, n'en fallait pas venir me voir. Tu t'en iras.
C'est le premier titre de la Zara, l'une des révélations françaises de cet été sur RTL.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zéquiel.
11h-12h30.
RTL vous régale.
Jean-Sébastien Louise, est-ce que vous êtes prêt pour le dernier défi frigo de l'été?
Oui, merci.
Voici Françoise, elle est à Reims où elle écoute RTL ce matin. Bonjour Françoise.
Bonjour tout le monde.
Et bienvenue Françoise. Je vous sens très en forme.
Oui, oui, oui.
Vous arrivez avec
contente
un...
de vous entendre.
Bah, on est ravis de partager ça avec vous parce que vous arrivez avec un petit produit que j'aime bien, moi. C'est...
Ah.
Ouais, ouais. Même si c'est pas quelque chose qu'on cuisine de mille et une façons,
oui.
Ça va pas être le plus facile des défis frigo. Dites-nous, vous en...
Eh ben oui, moi je vous propose les fèves de mon jardin.
Alors, qu'on comprenne bien, les fèves, hein, pas les fraises.
Les fèves, tout à fait.
D'accord,
ouais.
Très bien.
Ouais.
Ça vous va ça, les fèves, les amis?
Ouais. Parfait, j'adore ça.
C'est vrai?
Ouais.
À cuisiner, hein. J'ai pas dit on met trois fèves dans une assiette. Hein.
Voilà.
On est d'accord. Vous les cuisinez de temps en temps, vous
Eh ben, justement, pas du tout, parce que quand mon mari m'a dit qu'il mettait des fèves dans le jardin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça
Il a eu une bonne idée.
Alors maintenant qu'on les récolte, je me pose encore la question, qu'est-ce que je vais faire de ça?
Vous inquiétez pas, votre mari va avoir du boulot.
Vous savez, c'est un grand classique, mais bon, je peux pas m'empêcher. Vous savez quelle est la meilleure variété, hein?
Non.
Ah non, je ne la sens pas celle-là.
C'est celle du samedi soir. Ah. On se reparle dans quelques instants. Françoise, vous ne bougez pas, vous écoutez RTL, il est midi. Les infos tout de suite vous sont présentées par Guillemette Franquet.
Dans le Var, un poste d'urgence médico-psychologique a été mis en place pour les victimes de l'incendie. L'incendie qui sévit depuis 5 jours n'est pas encore totalement éteint, mais il est fixé. Il n'avance plus, annonce le préfet. Les conditions météorologiques demain font craindre des reprises des flammes. 1000 pompiers se relaient sur place nuit et jour pour venir à bout de l'incendie. Le feu pourrait être parti d'un mégot jeté. Cet après-midi, 300 personnes vont partir en renfort pour les Antilles. Soignants et bénévoles vont aider les hôpitaux de Martinique et Guadeloupe, totalement saturés dans le cadre d'une explosion de l'épidémie de Covid. Ils vont prendre le relais des équipes déjà sur place. 360 personnes ont déjà été envoyées depuis la métropole vers les Antilles pour soulager le système hospitalier à bout. Les mobilisations anti-pass sanitaires demain, on va avoir à nouveau pour le 6e samedi d'affilée. 200 rassemblements sont attendus. En France, 40 millions de Français ont déjà reçu leur dose de vaccin, soit les 2/3 de la population. Une grave crise alimentaire frappe l'Afghanistan. L'arrivée des talibans a empiré une situation déjà précaire après des sécheresses. Avec le conflit, des fermiers ont fui les terres qui ont parfois été vandalisées. Désormais, un Afghanistan sur 3 est en crise alimentaire, s'alarme le Programme alimentaire mondial. Dans l'aéroport de Kaboul, des scènes dramatiques. Un jeune espoir du football, âgé de 17 ans, a perdu la vie en tombant d'un avion américain auquel il s'était accroché. Les talibans sont accusés d'empêcher les Afghans de quitter leur pays. En Nouvelle-Calédonie, le chef de la gendarmerie, condamné pour violence conjugale, a été relevé de ses fonctions à sa demande, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Un prochain commandant devrait être désigné bientôt. Cette nomination avait fait polémique lorsque Mediapart a révélé mercredi que le colonel avait été condamné l'an dernier pour violences physiques et psychiques sur sa femme. Sur la route, Bison Futé classe la journée jaune dans le sens des retours et rouge dans le quart sud-est. Demain, la journée sera orange dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours avec le quart sud-est en noir. En Allemagne, les syndicats de cheminots annoncent une grève lundi et mardi. La grève affectera le trafic passager. Les trains de marchandises, eux, seront touchés dès demain samedi. En foot, Brest reçoit ce soir le PSG sans Neymar ni Messi pour la troisième journée de Ligue 1. Le match débutera à 21h. Rendez-vous dès 20h avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi pour RTL Foot. En tennis, Benoît Paire qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati aux États-Unis. Gaël Monfils, lui, a été éliminé, tout comme la japonaise Naomi Osaka, numéro 2 mondial. La météo aujourd'hui en France, le temps se radoucit quelque peu avec du soleil dans une majorité du pays. Le ciel sera un peu nuageux au-dessus de la Loire, mais il y aura de belles éclaircies. Si vous êtes dans le nord de la Corse, attention à un risque d'orage cet après-midi. Du côté des températures, il fera 20 degrés cet après-midi dans le Finistère, 22 en Lorraine, 24 degrés le long de la Loire, 26 à Bordeaux et 29 à Montpellier. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Cabourg. Les pronostics de Dominique Cordier, le 12, le 9, le 3, le 2, le 8, le 7, le 13 et à la dernière minute, le 2, Elvira Sauton. Il est midi et 3 minutes sur RTL. Tout de suite, le défi frigo dans RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Merci Guillemette Franck et prochaines infos tout à l'heure à 12h30 sur RTL.
11h, 12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Le défi frigo de cette fin de semaine. Grâce à Françoise qui est à Reims et qui, sans avoir l'air d'y toucher, arrive avec un truc compliqué. Françoise nous a proposé, vous a proposé, voire même vous a imposé la fève. Qui veut prendre la main sur ce dernier défi frigo avant qu'il soit de retour samedi prochain?
Allez, je m'y colle.
C'est un chevalier.
Je m'y colle, je m'y colle.
Françoise, soyez très attentive. Ce qu'il y a de bien, c'est quoi?
Ce qu'il y a de bien, Françoise, c'est que, je vous le disais, vous allez pouvoir faire travailler votre mari. Vous allez prendre de l'eau bouillante salée. Jusqu'ici, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous mettez ça dans une grosse casserole. Vous faites tremper et cuire vos fèves pendant 4 à 5 minutes. Ensuite, les fèves, vous allez les égoutter. Et votre mari va les éplucher avec un petit couteau. C'est ce qu'il y a de plus ennuyeux avec la fève.
Ça va le calmer pour un bout de temps.
C'est qu'il faut, voilà, ça, au niveau de la culture de la fève, ça va le calmer. Vous prenez la même casserole, vous faites fondre du beurre dedans et vous mettez vos fèves avec du thym, de la crème, un peu de sel, pas trop, mais vous poivrez généreusement et vous laissez cuire à feu tout doux, très pendant 6-7 minutes. Là, vos fèves sont prêtes. À partir de là, vous prenez une poêle, vous mettez quelques œufs dans un saladier que vous fouettez, vous allez ajouter un petit peu de lait, pourquoi pas un petit peu de paprika dans vos œufs battus.
Vous faites une omelette, là.
Vous faites une omelette. Vous mettez les fèves à l'intérieur en toute fin de cuisson, quand elle est baveuse. Et puis voilà, vous avez une omelette aux fèves.
Oh,
et ça, une omelette aux fèves et au thym. C'est fabuleux, c'est génial, c'est magnifique.
Ok, d'accord, je note omelette aux fèves.
Ouais. Ah.
Vous n'avez pas fait d'omelette depuis le début, je pense. C'est la première. Voilà. Il fallait quand même qu'on termine avec ça.
Et je peux vous dire qu'une omelette aux fèves, c'est un truc. Et vous avez encore mieux.
Il n'y a plus de sang. Hein.
Non, mais ça va, c'est le dernier. Quand vous avez des fèves comme ça, si vous en restez un petit peu au petit déjeuner, vous faites des œufs coques. Et vous allez manger ces fèves froides avec des œufs à la coque, c'est un truc.
Ouais, le jaune d'œuf là coulant sur la fève, je vois bien le truc. Je vois bien le truc. Ouais, ouais, c'est pas mal. Bon, allez, omelette aux fèves pour Jean-Sébastien. Devinez ce que Louise vous réserve.
Comment s'appelle votre mari, Françoise?
Ça commence.
Jean-Paul.
Bon, alors, moi, je vous propose des fèves à la portugaise.
À la Jean-Paul.
Vous allez faire revenir dans de l'huile d'olive, de l'oignon, de l'ail, de la poitrine de porc fumé et du chorizo. À côté de ça, vous allez faire cuire vos fèves dans de l'eau pendant 6 minutes, pas plus. Il ne faut pas qu'elles soient trop cuites. Et c'est là où Jean-Paul intervient.
Va se retaper
Jean-Paul
les fèves épluchées.
Va de nouveau éplucher les fèves. Mais ce qu'il faut dire à Jean-Paul, c'est qu'il faut qu'il les épluche deux fois, parce qu'il y a deux peaux sur les fèves.
Donc Jean-Paul a quitté le pays, hein, depuis votre début.
Une fois que Jean-Paul a épluché les fèves, vous reprenez la main, Françoise, et vous allez mélanger vos fèves à les fèves aux viandes, à cette fameuse marmite dont je vous ai parlé au début avec la poitrine de porc et le chorizo. Et si vous aimez la coriandre, je sais pas, ça c'est selon vous, vous pouvez parsemer un petit peu votre plat de coriandre ou de persil, enfin, les herbes que vous aimez et que vous avez dans le jardin, et vous laissez ça mijoter à couvert. Ça vous fait une espèce de compoté avec le croquant de la fève et le côté fumé de la poitrine et le piquant du chorizo. Je vous assure que Jean-Paul va être heureux.
Fève à la portugaise.
Ça veut dire que Jean-Paul, il va faire des petits pois l'année prochaine.
Ou alors il va fermer définitivement le potager. Voilà, l'affaire sera réglée. Bon, Françoise, est-ce qu'il est là, Jean-Paul, d'ailleurs? Est-ce qu'il est à vos côtés?
Oui, il est pas loin. Il est pas loin.
Il a donc entendu les deux recettes. Est-ce qu'il y en a une qui lui plaît plus que l'autre?
Bah, c'est à Françoise de choisir.
Oui, sauf que de toute façon, il sera mis à contribution dans les deux. Donc.
Oui, il sera mis en contribution. Bah, franchement, j'aime beaucoup les deux. L'une pour le paprika que j'adore, l'autre avec le chorizo que j'adore aussi.
Ah, il faut choisir.
Donc je vais prendre Louise.
Ah ben voilà, c'est gagné. Les fèves à la portugaise pour la dernière de cette semaine. Victoire de Louise.
Super, bonne idée, parce que au moins je vais savoir quoi en faire.
Et vous me direz, Françoise, hein.
Oui,
vous me rappelez, hein.
C'est Françoise qu'on va peut-être vous rappeler aussi dans quelques minutes, parce que vous venez de gagner une montre RTL, ça c'est fait. Vous venez de gagner un guide du routard aux éditions Hachette, ça c'est fait. Mais d'ici moins de 20 minutes maintenant, nous procéderons au tirage au sort du séjour mis en jeu cette semaine, c'est-à-dire séjour en famille dans un club Bellambra. C'est-à-dire que si c'est vous qui êtes tiré au sort, après avoir pelé 1,5 tonne de fèves, Jean-Paul partira en vacances. Et il les aura méritées. Un séjour d'une semaine en demi-pension à la mer ou à la montagne, dans plus de 50 destinations avec Bellambra, le numéro 1 des clubs de vacances en France. Vous choisirez. C'est vous qui nous direz.
Bonne chance, Françoise. Hein.
Je crois qu'elle a disparu, Françoise.
Ah, Jean-Paul est déjà en train d'éplucher les fèves.
Oui, j'ai l'impression. Bon, Françoise, j'espère que vous nous entendez. On procède au tirage au sort et on vous rappelle peut-être dans quelques instants.
Et on lui envoie une montre RTL et un guide du retard.
C'est ce que je viens de dire.
Voilà.
C'est vrai. Merci Jean-Sébastien pour cette précision qui était importante.
Jean-Jacques, j'adore.
Merci pour ce témoignage poignant aussi. On sent que c'est la dernière.
Ils sont au bout du roule.
Allez. C'est toujours une bonne idée, je le disais. Quoique, voici Jean-Jacques Goldman sur RTL.
Un début de janvier, si j'ai bien su compter. Reste de fête, tout bien veut, très appuyé. De rue tout de moche, lequel a eu l'idée. Qu'importe, j'ai gagné la course. Et parmi des milliers, nous avons tous été vainqueurs. Même le dernier des derniers, une fois au moins les meilleurs, nous qui sommes nés au creux de nos mères, qu'il fait bon mûrir. Puis j'ai vu de la lumière, alors je suis sorti, j'ai dit bonne idée. Parfum de la pluie, chaque jour un nouveau réveil, chaque jour une autre nuit. Des routes et des motards, et des matchs de rugby, des spaghettis, Frédéric Dard, et Johnny Winter aussi. On m'a dit c'est qu'une étincelle, avant l'obscurité, juste un passage, un arc-en-ciel, une étrange absurdité. Des frères, des tendres, des trésors à chercher, des vertiges à prendre, à comprendre, et des filles à caresser. Je me suis dit, bonne idée. Rien vraiment ne change.
hasard. La soirée t'est tombée avec mon sac et ma guitare. J'étais un peu fatigué. Tout était si désert pour me désaltérer. Et puis j'ai vu de la lumière et je vous ai trouvé.
En 98, bonne idée, Jean-Jacques Goldman sur RTL.
Ne bougez pas, dans un instant, RTL vous régale.
11h, 12h30,
RTL vous régale.
Ce panier qui nous aura servi depuis le début de l'été, qui est un peu élimé là maintenant quand même, parce qu'on l'a chargé. Hein. Parfois on a abusé même, j'ai l'impression. Pour la dernière fois, on va tenter de le remplir. Bon, quand même.
Ah non.
Ah si.
On a tout mangé.
On a tout mangé, mais on fera le compte en calories la semaine prochaine, vous allez voir. Dites-moi, Paris-Île-de-France,
oui.
Les incontournables.
Bon, déjà, on a du pain et du brie de Meaux.
On a du pain et du brie de Meaux.
Déjà.
On a des fruits.
Alors oui, il y a une vraie belle tradition que j'aime beaucoup, et c'est les murs à pêche de Montreuil, les pêches de Montreuil. Ce sont des murs agricoles qui, à partir du 17e, ont été mis en place, testés, évidemment, d'abord à Versailles par la Quintini, et puis au début du XXe siècle, on a couvert près de 300 hectares de murs à Montreuil. À cette époque, la ville était encore largement agricole, puisque plus de 700 hectares étaient consacrés à l'agriculture dans la ville de Montreuil, et la production fruitière était vraiment la production phare de cette ville. Le savoir-faire des Montreuil a fait connaître leurs fruits sur les plus grandes tables d'Europe. C'est un peu tombé en désuétude et c'est extrêmement dommage. Il y a une association de sauvegarde de ces murs à pêche. On continue. Il y a une toute petite production. Encore, il faut avoir des filières pour savoir où récupérer ces très belles pêches. Et en fait, pourquoi ça pousse? C'est simplement parce que la chaleur qui est emmagasinée par les murs permet des conditions idéales pour que les pêchers qui sont en espalier collés à ce mur puissent donner des fruits. Et
tu as dit, vu la tranche de l'été parisien cet été, enfin cette année, alors, je ne suis pas sûr que la récolte va être exceptionnelle.
Pas convaincu qu'il y en ait des masses aujourd'hui.
Voilà.
C'est clair.
Elle ne va pas nous parler de fromage, elle va parler de pâtisserie, ce qui est une performance en ce qui la concerne.
J'en ai quand même parlé tout à l'heure.
Oui, mais non. Alors,
quand
le
même.
Classique parisien.
L'opéra.
Il faut parler de l'opéra.
Mais oui, ce gâteau, c'est une pâtisserie française, pour le rappeler, qui est constituée d'une succession de biscuits jocondes, de ganache au chocolat et de crème au beurre au café. Alors, le gâteau opéra a été inventé en 1955 par le pâtissier Cyriac Gavillon, c'est la maison d'Aloyo, et sa femme André l'aurait alors nommé opéra, car le gâteau pouvait évoquer la scène de l'opéra Garnier. Et elle rendait donc hommage aux danseuses qui étaient ses clientes dans la pâtisserie.
C'est visuel, évidemment, hein.
C'est vrai que l'opéra fait partie des immenses classiques de la pâtisserie parisienne, ce qui n'est pas si courant. Hein. Il n'y a pas tant de gâteaux que ça qui ont été créés, inventés à Paris. Ça vient souvent de chefs, de pâtissiers qui ont créé ça un peu partout dans le monde. Mais Paris, c'est rare, quand même. C'est pas si courant que ça.
On reste dans le sucre ?
Bon, on va rester dans le sucré, oui, parce que c'est une formidablement belle histoire, celle des sucres d'orge des religieuses de Moret-sur-Loing. C'est une histoire dingue que celle de ces friandises. Elle date de 1638, lorsqu'un couvent s'installe à Moret. Sauf que rien ne le prouve. Il n'empêche que le succès fut grand à la cour de Louis XIV. Au XVIIIe, le sucre d'orge gagne encore en notoriété et les religieuses avaient un secret rendant leurs produits différents. C'était devenu une manne pour le village. L'Église décida de transférer les religieuses à Provins. Les autorités locales se sont opposées à ce transfert parce que c'était une délocalisation pour eux qui était scandaleuse et qui allait faire perdre énormément de revenus et de reconnaissance au village de Moret-sur-Loing. Elles partirent néanmoins. Et c'est Napoléon Ier, vous imaginez jusqu'où ça va cette histoire, qui fit revenir une autre congrégation, et tout cela fit qu'en 70, on fabriqua à nouveau des sucres d'orge à Moret-sur-Loing. Vatican II a vu cela d'un mauvais œil, et les moniales ont confié le secret et la recette du sucre d'orge. Le nouveau propriétaire emporte le labo à Mormant. La justice lui ordonne de retourner à Moret sous peine de perdre l'appellation. Le sucre d'orge existe toujours, mais vous imaginez,
l'affaire
est absolument
affaire d'État.
C'est un truc de fou.
Louise,
oui.
Dites-moi, Cresson, Cresson.
Cresson,
Cresson. Cresson, Cresson. Il y a deux salles, deux ambiances.
Moi, je dis Creux.
Bon,
Alors c'est une espèce, oui, c'est une espèce de plante potagère. Et l'Île-de-France est la première région productrice de cresson, figurez-vous. On l'appelle le cresson de Méréville. Alors historiquement, si on replonge un petit peu en arrière, l'arrivée du cresson en France remonte au début du 19e. Sa culture débute près de la commune de Senlis et connaît un tel succès que de nombreux cultivateurs vont en produire à leur tour. Et les Parisiens, à ce moment-là, en raffolaient. En 1866, ils consommaient 34 000 bottes chaque année.
Alors, il y a un produit qui est quand même assez exceptionnel, qui est peu connu finalement à l'étranger. C'est cette menthe poivrée qui vient de Milly-la-Forêt.
Alors, c'est pas un produit, c'est pas une plante naturelle. C'est une hybridation. La menthe poivrée est née de l'hybridation de deux types de menthe, la menthe aquatique et la menthe verte. Et ça a donné la Mitiam. Il existe, il y a ce petit village de Milly-la-Forêt dans l'Île-de-France, fait partie du parc régional du Gâtinais. C'est un site protégé. Cocteau a habité là-bas. La commune de Milly-la-Forêt a cette star qui est également la menthe poivrée. Son histoire, elle débute au tout début du XXe siècle. C'est un maraîcher qui rapporte cette menthe particulière, cette menthe noire qu'on appelle la Mitiam. Et puis au fur et à mesure du temps, eh bien, elle s'est adaptée au terroir et c'est le terroir de Milly-la-Forêt qui en a fait cette menthe poivrée, sorte d'hybridation naturelle entre la menthe verte et la menthe noire. C'est un truc totalement hallucinant. Il reste une productrice de menthe poivrée de Milly-la-Forêt et c'est véritablement fabuleux.
On pourrait vous parler des petits pois de Clamart, des asperges d'Argenteuil, on parlait du Brie, il y a la moutarde de Meaux aussi. Ouais. C'est un beau panier quand même. Hein.
Il y a tellement de produits en Île-de-France. Yannick Aledo s'est fait le défenseur des produits de l'Île-de-France et c'est vrai qu'il y a pléthore de maraîchage, de fruits et de produits transformés, de fromage. C'est un vrai plaisir et on oublie trop le terroir d'Île-de-France.
On se retrouve dans quelques instants pour le petit pas de côté de Jean-Sébastien. On est à Paris et en Île-de-France. Est-ce qu'on reste intramuros? Est-ce qu'on bouge? On va où? On fait quoi?
On va rester dans Paris.
Non, mais d'accord.
Tout de suite.
Tout de suite, retour de RTL. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Bon, on reste à Paris, évidemment. C'est un petit pas de côté, mais extrêmement parisien. Jean-Seb, on fait quoi?
Bah, ce n'est pas simple de choisir. Alors, on va débuter par un lieu où tout le monde venait ripailler, jouer, batifoler, et même plus, à la fin de l'Ancien Régime. En un mot, il s'agissait à l'époque d'un endroit très mal famé, très bruyant, à savoir les jardins du Palais Royal.
Ah ouais.
Ça étonne, hein, mais c'était une ruche à tripots. C'est là où Charlotte Corday a acheté le couteau qui frappa Marat. Il y avait des bordels qui sont passés dans les étages. Autant dire que aujourd'hui, c'est devenu très sage. C'est un lieu totalement hors du temps et surtout hors de Paris, puisque clos. C'est un bonheur aujourd'hui d'y passer quelques heures au soleil, dans un fauteuil ou assis sur un banc. Et on peut laisser couler justement le temps. On va aller dans le 8e arrondissement ensuite, dans un autre parc, le parc Monceau, qui est l'exemple parfait du goût pour les jardins à l'anglaise. Rien à voir avec les jardins du Palais Royal. Des jardins à l'anglaise sans parterre rectiligne, sans effet géométrique, ça a commencé à arriver cette mode à la fin du 18e. Le parc Monceau n'est devenu vraiment parisien qu'en 1860, lorsqu'Haussmann rachète le village de Mousseau à Paris, avec quelques autres. Hein. Alors du bassin à la pyramide, on croise les monuments hommage à Gounod, Chopin, Maupassant, quelques autres. Il y a même quelques tombes dans le parc Monceau, d'origine inconnue, amenées ici à la création du jardin. Et tout cet espace est entouré d'hôtels particuliers du 19e, plutôt cossus. Et là encore, c'est très tranquille. Et puis pour finir ce petit pas de côté, on va finir dans un troisième parc, le parc des Buttes-Chaumont. Au Moyen-Âge, on y trouvait le gibet de Montfaucon. C'était une décharge publique également qui en faisait un des lieux les plus sinistres autour de Paris. Le parc a été créé par la volonté de Napoléon III. Là encore, le baron Haussmann est intervenu. C'était en 1867. Et on raconte dans un encadré, le saviez-vous, dans le guide du Retard Paris, que rien n'est naturel dans ce parc des Buttes-Chaumont. Tout a été créé, et ça, il faut l'avoir très en tête quand on y va. Tout a été conçu de A à Z. La topographie, les montagnes, les pièces d'eau, les cascades, l'architecture du site, les ponts, les escaliers, comme celui du chemin des Aiguilles avec ses 200 marches. Les buts de Chaumont ne ressemblent à aucun autre parc parisien et c'est un exemple absolu du génie des architectes paysagistes qui ont conçu 23 hectares de balades avec des points de vue, des surprises, des folies au milieu d'un poumon vert. C'est un des parcs les plus agréables de Paris et que ce soit le Palais Royal, le Parc Monceau ou les buts de Chaumont, on est à l'extérieur, il n'y a pas de restrictions sanitaires. Et si on souhaite que cela dure, il est nécessaire, comme je vous le suggère depuis le début de l'été, de se faire rapidement vacciner.
RTL.
Jean-Michel Zeka vous régale jusqu'à 12h30. 11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Bon, c'était la dernière de RTL vous régale l'été, puisque nous serons de retour dès la semaine prochaine, les amis.
Oui.
On va pas se quitter comme ça.
Ah, vous allez me manquer quand même. Hein.
Ouais, mais bon, voilà, quelques jours. Ça va nous faire du bien, c'est hein, de prendre un peu de congé.
C'est-à-dire que c'est le foie qui va.
Voilà, on va alléger tout ça. On va faire un peu de sport et vous revenir très en forme le week-end pour la saison qui arrive le samedi entre 10h et 11h30. Absolument. Passez un très bon week-end. Avant de vous quitter, je voudrais dire bravo, féliciter Christiane qui a joué avec nous mercredi. Christiane qui nous écoute à Salaignon et qui part pour ce séjour en famille dans un club Bellambra. Elle va choisir dans plus de 50 destinations. Bellambra, le numéro 1 des clubs de vacances en France. Il y a eu de très beaux défis frigo. Mmh. Il sera de retour, évidemment, dès la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir passé l'été avec nous sur RTL. Jean-Sébastien, je voudrais... je pense que Jean-Sébastien va se joindre à moi pour dire à Louise Petit-Renaud combien son arrivée dans cette émission fut un authentique bonheur aussi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On vous embrasse et on vous retrouve pour la saison à venir. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Vous écoutez RTL. Il est...